On voit souvent des slogans. J'ai vu parfois j'aime mon entreprise, hein, ou j'aime ma ville. Hein, et donc c'est des slogans qui sont faits pour aider les gens à aimer le lieu où ils travaillent, aimer la ville, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire aussi j'aime mon église. Je crois même qu'il y a un site qui s'appelle comme ça, hein, j'aimemoneglise.com ou quelque chose comme ça. Hein. Et on pourrait se poser la question, est-ce que j'aime mon église, l'église dans laquelle le Seigneur nous a placés. En tout cas, la Bible dit que Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et je crois que nous sommes appelés à être et à lui ressembler, à aimer aussi ce qu'il aime. La parole de Dieu, l'Écriture, décrit l'Église de plusieurs manières. L'Église est quelque chose de vaste, hein, qu'on ne peut pas définir avec une seule phrase. Donc, dans l'Écriture, on trouve beaucoup d'images qui nous aident à cerner un peu ce que c'est que l'Église. Et chaque image emmène quelque chose de particulier. Alors peut-être vous pensez à des images, c'est vrai que dans l'Écriture, il est question de l'Église comme le temple de Dieu, comme le champ, comme l'édifice, comme l'épouse. Donc il y a beaucoup d'images comme cela qui sont données, et chacune, je crois, est là pour nous aider à comprendre l'Église. Et aujourd'hui, je voudrais voir juste peut-être une autre métaphore qui est utilisée pour l'Église et qui nous aide à saisir l'Église et puis notre rôle dans cette Église. C'est la métaphore du corps. L'apôtre Paul utilise fortement cette image du corps pour parler de l'Église de Dieu. Hein. Donc il parle de l'Église universelle dans ces termes, dans Éphésiens, par exemple, quand il dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ et qu'il a donné Christ pour chef de l'Église qui est son corps. Il parle de l'assemblée de tous les croyants des âges passés, des futurs, etc. Mais aussi, l'image est utilisée pour parler de l'Église en tant que corps de congrégation locale. Et donc, par exemple, dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, on trouve cette image, en Corinthiens chapitre 12, et au verset 27 ou 28, où l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, vous êtes le corps de Christ. Et donc l'église locale aussi est considérée comme un corps, comme le corps de Christ. Et c'est ça que nous voulons voir un peu aujourd'hui, mais surtout particulièrement voir l'unité de l'église locale et avec la métaphore du corps. Hein. Quoique cette métaphore nous permet de comprendre de saisir que l'église locale doit être unie. Donc nous parle de l'unité qui existe dans l'église locale et la métaphore du corps met cela en plus clairement en évidence. Alors je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 12. Alors nous avons passé du temps à étudier cette épître dans le passé. Vous vous souvenez que c'est une église qui était marquée par les divisions. Les gens étaient divisés parce qu'ils avaient chacun leur prédicateur préféré. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, celui-là c'est mon chouchou, celui-là je l'aime pas, etc. Et puis il y en avait qui étaient très spirituels, qui disaient « Moi, je suis de Christ. Hein? » Et donc, ce n'est pas les hommes, c'est Christ. Mais ceux-là étaient autant divisés que les autres. Et puis l'Église était aussi divisée dans son culte même. Vous vous rappelez de cela? L'apôtre Paul a été obligé de leur parler, de les remettre sur le droit chemin concernant le repas du Seigneur. Quand ils se réunissaient, l'apôtre Paul dit, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il dit, ça c'est pas quelque chose de normal. Et il y avait de la discorde même dans le repas qu'il prenait. L'apôtre Paul dit, ce que vous faites là, c'est pas le repas du Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'unité. Vous, les uns mangent alors que les autres ne sont pas encore arrivés, certains sont ivres, etc. Il dit, et puis d'autres n'ont pas mangé. Il dit, non, lorsque vous mangez, attendez-vous, il n'y avait pas d'unité dans cela. Mais ils étaient encore aussi divisés à cause de l'exercice des dons et des ministères dans l'Église. Et c'est ce que traite le chapitre 12, les chapitres 12, 13 et 14, hein, c'est sur le ministère des dons, hein, les dons qui sont donnés par l'Esprit à l'Église et qui étaient l'objet de divisions aussi dans l'Église. Et pour aider les Corinthiens à prendre conscience de l'unité qui doit exister dans les membres du corps de Christ, dans l'Église locale, l'apôtre Paul utilise la métaphore du corps humain. Et parfois, je me dis, est-ce que Dieu n'a pas fait cela exprès pour que, voilà. Voyez, le mariage, par exemple, l'Église, c'est l'image de la relation que Christ entretient avec son Église. Et puis, je dis, Dieu a fait le corps humain comme il l'a fait, et cela sert d'image encore de ce corps de l'Église que Dieu constitue. Donc, lisons à partir du verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12, ça va donner le temps de trouver. Et au verset 12, nous lisons, en Corinthiens 12, 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà comment l'apôtre Paul, et en tout cas le Saint-Esprit, hein, pousse l'apôtre Paul à écrire ces choses et pour l'Église de Corinthe, mais aussi pour nous, pour traiter la question de l'unité dans l'Église, hein, et de division qui existe à cause des membres. Et le verset 12, hein, dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi, dit-il, en est-il de Christ. » Donc il prend la métaphore du corps pour parler de Christ et de l'unité et en même temps de la diversité. Hein, il dit, au verset 13, il dit ici, nous avons tous en effet, donc cela est rattaché à ce qu'il dit avant, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc premièrement, on pourrait dire que l'unité de l'Église locale puise vraiment sa source ou son essence dans l'unité fondamentale opérée par l'œuvre expiatoire de Christ. L'unité de l'Église locale puise sa source vraiment dans l'unité fondamentale ici qui est opérée par l'œuvre expiatoire de Christ. La métaphore du corps, on a dit, illustre, sert d'illustration à Paul pour mettre en évidence la réalité qui concerne Christ. Ainsi en est-il de Christ. Et c'est l'unité de Christ qui est le point, on pourrait dire, que l'apôtre Paul met en avant ici. Je veux dire que, par exemple, quand il parlait aux Corinthiens, dans le premier chapitre, il disait « Christ n'est pas divisé ». Il parlait de leur division en disant « Christ n'est pas divisé ». Rappelez-vous, il dit « Je veux vous dire ceci, je veux que chacun de vous parle ainsi. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi ». C'est ce qu'il faisait. « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, et moi, je suis de Christ ». Il ajoute « Christ est-il divisé ?» Donc la question, il dit, voilà, vous êtes divisé, Christ est-il divisé? Il dit la même chose ici. Il dit, voici comment est le corps. Il dit, ainsi aussi en est-il de Christ. D'accord. Un seul corps, une unité. Et donc, pour pallier à ce problème de division et de cause d'incompréhension qui concerne les dons, l'apôtre parle au moment de l'unité qui concerne Christ et dans laquelle tous les croyants sont plongés. Il dit, il y a une unité de fait par le fait que l'on est un croyant, que l'on est sauvé. Et cette unité-là, elle est faite par Christ, d'accord, qui plonge ceux qui le reçoivent dans le Saint-Esprit afin qu'ils puissent former un seul corps. C'est ce que le verset 13 dit ici. Regardez encore, il dit, nous avons tous, en effet... Et l'apôtre Paul parle de tous les gens de l'église de Corinthe, mais ça concerne tous les croyants, tous les chrétiens aussi. Il dit, en effet, nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Et cela arrive lors de la conversion. C'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. L'apôtre Jean l'avait dit, vous vous rappelez, hein, après moi vient celui qui est plus grand que moi, celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 32, 33, par là. Et donc, ça veut dire ici que c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Donc, les croyants sont plongés, dit-il ici, immergés, et même dit, ils sont même abreuvés, tellement immergés qu'ils ont bu du même, d'autres textes traduisent, qu'ils ont bu de ce même esprit. Donc, tous immergés dans l'esprit de Christ pour former un seul corps. Et il ajoute, soit juif, soit grec, qui sont les deux, on pourrait dire, les deux pôles, hein, deux personnes bien séparées, hein, d'accord, pas du tout la même religion, pas le même arrière-plan, etc. Et donc, il dit, s'ils sont des croyants, eh bien, ils sont baptisés dans l'esprit de Christ et ils ne forment qu'un seul corps, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs. Ils ont littéralement bu le seul esprit et donc c'est ce même esprit et qu'ils ont, par lequel ils sont abreuvés qui forme un corps, qui leur permet de former une unité. Il n'y a pas de barrière possible qui empêche quelque nature qui empêche que les croyants soient unis entre eux s'ils sont véritablement en Christ. Le fait d'être en Christ de fait place les croyants dans une unité. C'est ça que dans un même corps. Et ce que l'apôtre Paul souligne ici. Il dit, ainsi en est-il de Christ. Et nous avons été baptisés. Donc vous êtes, que vous le vouliez ou non, que vous aimiez votre frère ou pas, vous faites partie du même corps et vous êtes unis. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul dit que nous devons nous efforcer de conserver quoi ? L'unité de qui ? De l'esprit par le lien de la paix. Nous ne créons pas l'unité. C'est pas nous qui décidons, je vais être uni avec mon frère. Non. Nous sommes placés de fait dans le corps de Christ quand on devient un enfant de Dieu véritable, né de nouveau. C'est ce que l'Esprit de Dieu accomplit en nous, nous place dans cette unité. Et je suis un avec mon frère, avec ma sœur qui se trouve dans la même congrégation que moi. aussi bien que je suis un avec les autres croyants véritables qui habitent ailleurs. D'accord ? Donc, parfois, quand nous avons un différend avec quelqu'un en autre, nous disons cet homme-là, en parlant du frère, ou cette femme-là, d'accord ? Tellement on est fâché, on n'appelle plus frère et sœur. Mais même si on l'appelle comme ça, c'est mon frère et c'est ma sœur, et je suis uni à cette personne parce que je suis dans le même corps, et je ne peux pas me défaire de cela. Et c'est une réalité qu'il me faut accepter. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 11, il était dit que l'œuvre de Dieu, c'était de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant l'inimitié. Donc c'est le projet, le dessein de Dieu de réunir, et même Gamaliel, c'était Caïphe qui avait dit la même chose aussi, de réunir tous les enfants de Dieu dispersés en un seul corps. Galates 3, versets 26 et 28 dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, vous tous qui avez été baptisés en Christ. » Et il dit « Vous avez revêtu Christ. » Et quelle est la conséquence de cela ? Il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Alors bien sûr, est-ce que ça veut dire que les différences sont gommées ? Non, il y a toujours des hommes et des femmes, il y a toujours des grecs et des juifs, il y a toujours des esclaves et des libres. Mais ces différences sociales, d'accord, ou sexuelles, ou ethniques, etc., ne sont pas des barrières à cette unité, parce qu'ils sont tous été baptisés en Jésus-Christ. Et voilà le point sur lequel l'apôtre Paul insiste, premièrement, auprès des Corinthiens. L'unité à laquelle il appelle l'église locale de Corinthe repose sur l'unité fondamentale qui existe et qui a été opérée par le sacrifice expiatoire de Christ à la croix du calvaire. Deuxièmement, on peut voir ici que l'unité de l'église locale se vit dans l'acceptation de la diversité des membres et aussi de la diversité des ministères. L'unité de l'église locale doit se vivre dans l'acceptation de la diversité des membres et de la diversité des ministères. Ainsi, verset 14, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Bon, ça c'est, on n'a pas besoin de le dire. L'apôtre Paul le souligne. Parce que, il dit voilà, on est plongé dans un seul corps. Vous devez vous souvenir que le corps, c'est pas un seul membre. Le corps, il est un. Il y a une unité dans le corps, mais il est formé de plusieurs membres. Et donc, vous devez accepter cette diversité de membres. Et puis aussi, particulièrement, on n'a pas lu les versets qui précèdent, mais si vous lisez les versets chapitre 12, et à partir des versets 4, il dit « Il y a diversité de dons et le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné un esprit de parole, une parole de sagesse, pardon, par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et donc il dit, voilà, il y a des diversités dans les ministères, dans les dons que Dieu accorde aux uns et aux autres. Dans le corps, il dit, et ça c'est comme dans le corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a les yeux, il y a la bouche. Mais tout ça forme un seul corps, ici. Et c'est important de considérer cela. Dans le monde qui nous entoure, on pense que pour avoir l'unité, il faudrait parfois l'uniformité. Même si on dit, ouais, il faut apprendre à vivre nos diversités, Souvent, c'est des paroles que l'on prononce, mais quand la diversité vient à la porte de notre village, on est le premier à se dresser contre elle. Hein. Si des gens différents de nous viennent habiter, ou on essaye d'installer des gens de conditions différentes, etc., qui viennent d'horizons différents, on est les premiers à s'insurger, hein, parce qu'on a peur pour la dégringolade de la valeur du bien immobilier ou autre chose. Hein. Donc la diversité, parfois on la prône avec les mots, mais elle est beaucoup plus difficile quand même en réalité à accepter. Hein. Nous aimons pas ce qui est différent de nous, naturellement. Nous ne sommes pas attirés par ceux qui sont différents de nous. Et la dernière fois on le disait, hein, si ce n'était pas pour Christ, on ne se serait peut-être pas choisi du tout comme ami. C'est parce que l'Esprit de Christ nous met dans ce corps que nous apprenons à vivre les uns avec les autres. Quand vous allez, par exemple, acheter un objet sur Internet, si vous avez fait attention, mais on ne vous dit jamais « Super, vous êtes original, vous êtes le seul client à acheter cet objet. » D'accord ? Mais on vous dit toujours « Ah, les clients qui ont acheté cet objet ont acheté cela aussi. » D'accord ? Beaucoup de personnes, c'est pour vous attirer vers là où beaucoup de gens achètent. Et vous, vous dites, ah, si beaucoup de personnes ont acheté cela, c'est parce que c'est un bon truc. Finalement, on n'aime pas être si original que ça. On veut faire ce que tout le monde fait. On s'habille comme tout le monde s'habille. Hein? On parle comme tout le monde parle. Et on veut être accepté des autres. Et pour cela, on ne cherche pas la diversité, mais plutôt l'uniformité. On fait les choses pratiquement de la même manière. Mais je pense que cette pensée parfois peut traverser aussi les églises. On veut faire ce que tout le monde fait. Il y a certains dons, certains ministères que l'on veut avoir parce que ce sont peut-être des ministères qui sont en vue. Et moi aussi, je veux faire cela. Ouais. Je connais une fois, il y a très longtemps, quelqu'un qui était dans une église. Et puis, il avait quitté l'église, et puis après, il est revenu dans l'église locale, et puis après, il est reparti. Et puis, le pasteur est allé le voir, et puis il avait exprimé son désir de revenir à l'église. Et cet homme a dit au pasteur, je veux revenir à l'église, mais à condition que je fasse partie du conseil d'anciens. Vous avez compris la réponse déjà du pasteur. C'est quand même, vous voyez, et parfois on peut être un petit peu comme ça, on va pas peut-être jusqu'à ces extrêmes là, mais on veut ça. Et tout le monde veut la même chose, hein, comme les enfants avec un jouet, tout le monde veut le même jouet. C'est ce contre quoi l'apôtre Paul écrit ici. Dans cette église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient des dons, peut-être qui étaient plus spectaculaires que d'autres, et particulièrement le don du parler en langue, ouais, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Et puis, ceux qui n'avaient pas cela, eh bien, étaient considérés comme peu spirituels. Ils se disaient, moi, je suis pas spirituel, parce que voilà, moi, je n'ai pas le même don. Moi, je veux ça. Et l'apôtre Paul dit, mais un corps, c'est une unité, mais c'est aussi une diversité. Il dit, l'Église, le corps de Christ, est une diversité. Et donc, la diversité des membres du corps est une réalité indéniable. C'est ce qu'il dit. Ici, verset 14 et verset 16, il dit ceci, regardez. Il dit, si le pied disait, donc Paul va faire parler les membres du corps. Hein, donc vous pouvez imaginer, hein, dans votre tête, hein, un pied qui parle, je ne sais pas, hein, un pied qui pense. Enfin, souvent en France, on dit quand on pense comme un pied, c'est qu'on ne pense pas du tout. Hein, donc, mais l'apôtre Paul n'était pas français. Donc, imaginez, hein, il dit, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et donc, l'apôtre Paul appelle les Corinthiens à réfléchir. Il dit, imaginez que le pied résonne ainsi. Vous voyez? Il dit, je ne suis pas une main, alors je ne suis pas du corps. Il dit, alors, la conclusion, ça c'est sa conclusion à lui, au pied. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est que ça n'a pas de sens. Il est quand même partie du corps, quoi qu'il pense de lui-même. Même s'il pense qu'il aurait préféré être une main, il a un pied, il est quand même du corps. Même s'il pense qu'il n'est pas du corps, il est quand même du corps. Et il dit ça pour ces personnes qui pensent que parce que je n'ai pas ce don-là, eh bien voilà, je suis à rien, je suis pas important. Il dit non, vous faites aussi partie du corps, quels que soient les dons que vous avez. La réalité de votre appartenance n'est pas liée au don que vous exercez, ni au ministère que vous avez. Elle est liée au fait que vous avez été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça qui fait de vous un membre du corps. Ça n'est jamais ce que vous avez comme don ou ce que vous exercez comme ministère. Donc ce n'est pas le don, bien sûr, ou la fonction que l'on occupe qui doit servir de jauge, de mesure, mais la réalité vraiment de notre appartenance. Et quand nous sommes ébranlés, en général, il faut toujours revenir à la vérité, à la réalité des choses. Nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Tous, grands, petits, des fonctions voyantes, des fonctions non voyantes, tous font partie du corps de Christ. Donc et le corps, il est divers. Il y a divers membres, il faut accepter cela. Il ne faut pas dénier cette réalité. Les Corinthiens disaient, parce que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du corps. Il dit, non, il y a une diversité dans le corps, il faut l'accepter. Lui, il est comme ça, très bien. Toi, tu es autre, et c'est aussi très bien. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La diversité des membres aussi, et des ministères du corps, est une nécessité absolue. Ce que l'apôtre Paul souligne au verset 17, il dit, si tout le corps était œil, pardon, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Autrement dit, l'ouïe et l'odorat sont des fonctions vitales du corps. On a besoin d'entendre, on a besoin de voir, on a besoin de sentir, etc. Et on ne peut pas interchanger les membres ou les organes qui doivent remplir ces fonctions-là. L'ouïe ne peut pas être l'oreille, ne peut pas être l'œil ne peut pas être l'oreille. Donc il y a des fonctions qui sont des fonctions vitales du corps et pour lesquelles il y a des membres qui sont différemment dotés pour ces fonctions-là. Et de même, dans l'Église, il y a des fonctions que Dieu donne à remplir et il dote les membres différemment afin qu'ils puissent accomplir ces différentes fonctions dans son corps. Donc la diversité des membres et des dons est nécessaire car il y a diversité de besoins. Il n'y a pas qu'un seul besoin dans l'Église. Il n'y a pas que le besoin de la prédication dans l'Église. Il n'y a pas que le besoin de la louange dans l'Église. Il y a différents besoins. Parfois, il y a des gens qui ont besoin juste d'entendre une parole de réconfort. Et Dieu donne à certaines personnes ce don-là d'avoir cette parole pour encourager quelqu'un. Et c'est le ministère que Dieu donne. Il y en a qui prient secrètement les uns pour les autres. Il y en a qui ont l'œil pour voir que quelqu'un n'a pas été là. Parfois, ça échappe à beaucoup. Mais il y en a qui Dieu donne ce coup d'œil et ils peuvent passer un coup de fil, envoyer un message. C'est un ministère qui est indispensable aussi dans l'Église. Il y a beaucoup de ministères, il y a diversité de ministères. Alors bien sûr, tous ne sont pas forcément répertoriés sur un classeur, sur un registre, mais Dieu a créé diversité de ministères et il appelle ses enfants, les membres de son corps, à remplir ces différents ministères. L'Église primitive, bien sûr, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, les prières, dans la commune fraternelle, mais aussi il y avait beaucoup d'entraide ou de choses comme cela qu'elle faisait. Il y avait beaucoup de ministères annexes qui étaient développés dans l'Église primitive. Donc la diversité des membres et des ministères du corps est nécessaire, est une nécessité absolue. Et c'est pour cela qu'il y a divers membres dotés différemment. La diversité des membres aussi du corps répond à l'action intentionnelle et souveraine de Dieu. Regardez le verset 18. Il dit, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Ce verset exprime que Dieu a fait quelque chose intentionnellement et souverainement. C'est lui qui a placé chaque membre du corps. Chacun est placé. Chacun. D'accord ? Quand j'étais jeune, on jouait au foot. Je jouais au foot quand j'étais jeune. Ça fait rigoler mon fils, mais c'est pas grave. Je jouais au foot quand j'étais jeune. Mais j'étais pas bon du tout. Alors, vous savez comment on faisait les équipes? On mettait tout le monde aligné ici, puis il y a les deux plus forts, c'est eux qui choisissaient les personnes pour les appeler dans les équipes. Et moi, j'étais jamais appelé parmi les premiers. Et on appelait un tel, un autre, et su par ordre, et chacun se dépêchait pour attraper les meilleurs. Et puis, il y avait des gens comme moi qui restaient et on les acceptait, on ne les appelait même pas, on les acceptait. Ils pouvaient aller dans l'équipe laquelle ils voulaient. Ils n'étaient pas choisis, ils n'étaient pas placés. Ils étaient juste acceptés parce qu'ils n'étaient pas... Et c'est vrai, je n'étais pas bon du tout, hein, jusqu'à présent non, d'ailleurs. Et donc, ils étaient placés comme cela. Mais ce que l'apôtre Paul dit ici concernant l'Église, ce n'est pas la même chose. Il ne dit pas que Dieu a choisi des personnes importantes qu'il a placées, et puis les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils arrivent, ils se font une place dans l'Église. Il dit non, chaque membre a fait l'objet particulier de l'attention, d'une attention particulière de Dieu. Chacun, regardez comment c'est écrit, Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Chacun a été placé. Donc ça n'est pas quelques-uns, les autres se débrouillent, pas du tout. Donc si vous êtes membre du corps de Christ, membre de l'Église locale, il vous faut considérer cela. Dieu a pensé à vous individuellement et vous a placé individuellement dans son corps. Il ne l'a pas placé ailleurs, il l'a placé dans le corps. Vous avez eu ça? Il n'a pas placé dans un institut biblique. L'institut biblique, ce n'est pas l'Église. Il n'a pas placé dans une organisation chrétienne. L'organisation chrétienne n'est pas l'Église. Il l'a placé dans l'Église. Il y a des choses qui sont importantes, comme les instituts bibliques, d'autres organisations, les missions, pour aider l'Église. Mais le croyant, c'est dans l'Église qu'il est ajouté. Actes chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais il faut retenir que chacun a fait l'objet d'une attention particulière de Dieu. Placé dans le corps, et il dit qu'il a été placé dans le corps comme Dieu l'a voulu. C'est pas celui qui dit « Moi, je veux être ceci. Moi, je veux être cela. » Moi, je veux travailler à tel ministère. Non, il dit que Dieu a placé comme il l'a voulu. Il agit en maître souverain sur la manière de placer dans son Église, dans son corps. Et l'apôtre Paul dit, il faut accepter cela. Il ne faut pas envier les autres. Il ne faut pas se dénigrer non plus, d'accord, en disant, moi, puisque je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Pas se dénigrer non plus. Il faut accepter juste ce que Dieu a fait souverainement. C'est Dieu qui choisit. Et dans ce passage, l'apôtre Paul montre à plusieurs endroits que Dieu agit souverainement. Si vous regardez au verset 5 du chapitre 12, il dit déjà que Dieu opère tout. Si vous regardez au verset 11, il dit que c'est un même esprit qui opère toutes choses. Et il dit qu'il le fait, qu'il distribue chacun en particulier comme il le veut. Et puis, on vient de voir le verset 20, où il dit que Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Au verset 24, il a disposé le corps d'une certaine manière. Et au verset 28, il est dit que Dieu a établi dans l'Église des pasteurs, des diacres, des apôtres, etc. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui agit. C'est Christ qui baptise de son esprit pour placer chaque individu régénéré dans son corps. Mais c'est lui qui place aussi dans les ministères, c'est lui qui dote, qui donne les dons pour accomplir les ministères dans l'Église et qui place dans les fonctions particulières. Dieu est souverain sur toutes ces choses, sur toutes ces choses. Et il faut que l'enfant de Dieu le reçoive et l'accepte. Et puis troisièmement, on peut voir aussi l'unité de l'Église locale implique l'interdépendance des membres. C'est ce que la métaphore du corps permet de révéler. Donc elle révèle une unité, mais elle révèle une unité dans la diversité que l'on doit accepter, mais elle révèle aussi que les membres sont interdépendants les uns des autres. Cela saute aux yeux, notre corps, tous nos membres, notre corps humain, sont interdépendants ici. Et donc les membres les moins dotés sont tentés souvent de se dénigrer, comme on l'a vu, si je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Hein. Ils sont tentés de dénigrer leur appartenance au corps, mais de l'autre côté, les membres qui sont parfois les plus dotés sont aussi tentés de croire qu'ils sont suffisants et qu'ils n'ont pas besoin des autres. Quand on a parfois des dons, on peut penser, oh, j'ai pas besoin des autres. Je suis suffisant à moi-même. Et l'apôtre Paul dit, vous trompez. Regardez ce qu'il dit au verset 21, donc, 1 Corinthiens 12, verset 21, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas dire ça? Est-ce que c'est parce que ça n'est pas gentil? C'est pas gentil de dire ça. J'ai pas besoin de toi. Non, c'est simplement parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit, ça n'est pas vrai que un membre, aussi doté soit-il, n'a pas besoin de notre. Il dit, est-ce que l'œil peut dire ici, à la main, je n'ai pas besoin de toi. Aussi loin que peut voir l'œil, il ne peut pas attraper la chose. Il a besoin que les pieds le conduisent là-bas et que la main saisisse. D'accord ? Il peut voir très loin, mais il a besoin des autres membres pour aller là-bas. Peut-être même pour voir de plus près, il a besoin que le corps, que les autres corps du membre se mettent en mouvement pour l'y amener. La tête peut réfléchir à beaucoup de choses. Elle peut penser beaucoup de choses. Elle peut organiser de beaux voyages dans un pays. Elle peut même voir le pays déjà dans sa tête, dans son esprit. Voilà, l'esprit, on peut voyager et voir beaucoup de choses. Mais la tête ne peut pas aller tout seul à l'avion pour prendre l'avion et partir en voyage. Il faut que les pieds l'y conduisent. Donc tout le corps, d'accord, il y a une unité. L'apôtre dit que, voilà, pas parce qu'on a une tête qu'il faut penser que le pied, il est inutile. Je ne peux pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Et donc, quand on transfère ça à l'Église, on ne peut pas dire aux membres, quelle que soit la fonction qu'ils accomplissent dans le corps de Christ, je n'ai pas besoin de toi. Écoute, mon frère, ma sœur, tu sais, c'est bien beau ce que tu fais, mais je peux m'en passer. L'apôtre Paul dit, c'est faux. C'est faux. Parce que Dieu a placé dans le corps de manière à ce que nous ayons besoin les uns des autres. Peut-être que nous considérons que nous n'avons pas besoin les uns des autres. Mais nous nous trompons et nous péchons ce faisant. Et nous avons besoin de nous repentir si telle est notre pensée à l'égard des autres. Et l'apôtre Paul amène les croyants de Corinthe à penser, à réfléchir à comment ils pensent des autres. C'est ça la question ici. Comment est-ce que vous pensez des autres qui sont dans la même congrégation que vous et qui sont vos frères et sœurs? Est-ce que vous vous voyez au-dessus d'eux? Ou est-ce que vous vous voyez dépendant d'eux? La Bible fait une différence entre les fonctions. Toutes les fonctions ne sont pas les mêmes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais elle ne fait pas de distinction entre les personnes. Et souvent, ce que nous faisons, avec l'orgueil, c'est que nous utilisons la fonction pour faire une différence entre les personnes. Quand on dit « je n'ai pas besoin de toi », c'est-à-dire avec ce que tu exerces comme ministère, et ce que j'exerce comme ministère, je peux me passer de toi. Okay. Et on utilise la fonction pour faire une distinction de personne. La Bible ne fait jamais de distinction de personne. D'accord ? Dieu ne fait pas exception de personne. Et l'enfant de Dieu est appelé aussi à ne pas faire exception de personne. Tous, on doit accepter tous. D'accord ? Il faut respecter, cela étant dit, les fonctions qui sont différentes. On peut respecter la fonction de celui-ci et la fonction de celui-là. Mais il n'y a pas de différence de personnes qui sont liées à la différence de fonction. Et nous avons tous, autant que nous sommes, besoin les uns des autres. Et on pourrait trouver toutes les applications que l'on pourrait avoir pour illustrer cela. Et l'apôtre dit, verset 22, « Bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent plus faibles sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Chaque personne qui compose l'Église est nécessaire parce qu'elle est là selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas vous qui avez choisi de l'intégrer. Ce n'est pas elle qui a choisi de s'intégrer. C'est Dieu qui l'a placée ici. Et qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, qu'elle soit manuelle, cette personne, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit artiste ou non, qu'elle ait un haut rang social ou un bas rang social, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. Elle est nécessaire au corps parce que Dieu l'y a placée. même si vous ne voyez pas la nécessité. Il paraît que dans le corps humain, il y a des organes, on ne sait pas quelle est leur nécessité. Les médecins ont beau chercher jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé la nécessité. Ils pensent qu'ils peuvent peut-être, je ne sais pas. Mais bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'un jour, ils découvriront la nécessité de certains organes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Dieu qui a conçu le corps, a mis dans le corps tout ce qui est nécessaire au corps. Et pareillement, spirituellement, dans le corps du Christ, dans l'église locale, il a placé tout ce qu'il a voulu placer. Et il les a placés comme il a voulu. Et il dit ici qu'ils sont nécessaires. Donc nous dépendons les uns des autres. Et cette métaphore du corps nous permet de considérer cela. Pensez aux gens à qui vous avez cru que vous n'avez pas besoin d'elle. Vous avez besoin d'elle. Et Dieu l'a placée ici, à côté de vous, parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous ne voyez pas que vous avez besoin. Mais peut-être qu'elle prie pour vous sans que vous le sachiez. Et voilà pourquoi vous avez besoin d'elle. Vous ne le voyez jamais, elle ne vous l'a jamais dit qu'elle prie pour vous, cette personne. Mais elle prie pour vous. Et en fait, vous tenez parce que cette personne prie pour vous. Et vous ne le savez pas. Et vous en avez besoin sans le savoir. Alors bien sûr, ce n'est pas visible ce qu'elle fait. Vous pouvez me dire que la personne ne fait rien. Ça, c'est votre analyse des choses. Mais Dieu qui l'a placée là, savait qu'il y avait besoin de quelqu'un comme cela, qui va prier pour vous secrètement sans que vous le sachiez, et qui va faire que vous teniez ferme, parce que cette personne plie les genoux devant son Seigneur pour vous. Pour vous. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. Nous avons tous besoin les uns des autres, et nous dépendons tous les uns des autres, et tous sont nécessaires au corps de Christ. Et puis, quatrièmement, et je termine avec ça, l'unité de l'Église locale implique aussi la solidarité mutuelle. Et c'est ce que le corps met en évidence ici. L'apôtre Paul dit, regardez verset, on va passer vite là-dessus, mais le verset 22. Il dit, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Le fait de faire partie d'un corps, cela implique aussi, c'est-à-dire ça donne la vision de l'Église qu'elle doit être aussi solidaire. Elle prend soin aussi de ceux qui sont peut-être les moins honorés. Comme dans le corps. On met un vêtement sur les parties les moins honorables. En général, tout ce qui fait partie du tronc. Mais on ne met pas de vêtements sur le visage, par exemple. Le visage, il n'a pas besoin. Au contraire, on le montre, par son sourire, etc. Il n'a pas besoin que l'on prenne tant soin de lui. Alors, bien sûr, il y a des gens qui passent beaucoup de temps devant le miroir pour pouvoir en prendre soin. Mais bon, on ne le couvre pas. On n'est pas confus si jamais on a oublié le maquillage. Tandis que si on oublie le vêtement, on est confus. D'accord? On est dans la honte. La Bible le dit, la Bible utilise beaucoup. Il dit la nudité, il parle de la honte de la nudité, Et il faut couvrir parce que ces parties ont besoin d'honneur. L'apôtre Paul, c'est ça qu'il souligne ici. On pense à ces vêtements que l'on met. Et il dit, dans l'église, c'est pareil. Il y a peut-être des membres qui sont plus fragiles, moins honorés que d'autres. Et le corps doit réagir de manière à les mettre en valeur, à leur accorder de l'honneur, à leur parler, à prendre soin d'eux. À les inviter, c'est-à-dire, c'est vrai que naturellement on va vers ceux qui nous ressemblent ou vers ceux que nous admirons peut-être, mais il dit non, il dit on doit être enclin à nous occuper de ceux qui a moins d'honneur, peut-être de ceux qui travaillent silencieusement, régulièrement, on sait qu'ils le font, mais ils ont besoin d'une parole d'encouragement, ils ont besoin qu'on le dise parfois, qu'on les remercie parfois, de manière à leur rendre honneur. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin d'honneur. De par ce qu'ils font déjà, ils n'ont pas besoin de recevoir des honneurs. Ça peut être le cas de la prédication. On n'a pas besoin de recevoir des honneurs. Mais il y en a qui ont besoin de recevoir des honneurs dans ce qu'ils font, parce que ce sont des choses qui sont peut-être moins vues. Et Dieu veut que le corps fonctionne comme ça pour qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une compensation des choses. Et c'est important pour nous de le faire.
C'est pas la peine de courir après le pasteur. Non, mais peut-être tu as besoin de courir après celui qui fait régulièrement les choses là et sans lesquelles rien ne se ferait, mais que personne ne voit et qui a besoin d'être encouragé et qui a besoin d'être honoré, de lui faire sentir que ce qu'il fait est nécessaire et indispensable aussi au corps du Christ. C'est ce que l'apôtre Paul souligne ici. Il dit que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Et il dit cela afin qu'il n'y ait pas de division. Effectivement, si tout le monde va vers la même personne ou vers les mêmes personnes, et on en oublie d'autres, ça va créer des divisions. Mais il dit que Dieu a créé les choses ainsi, il a disposé le corps ainsi. Il dit pour qu'il n'y ait pas de division, mais afin que les membres aient également soin les uns des autres. Et nous devons retenir cela. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent aussi avec lui. Il y a cette solidarité. Hein. L'unité de l'église locale implique la solidarité mutuelle. Je souffre quand un membre souffre. C'est comme ça que le corps fonctionne. D'accord ? Si on me demande, est-ce que tu as mal ? Je dis pas, non, j'ai pas mal, c'est que mon doigt qui a mal. Hein ? Ou c'est que ma tête qui a mal. On dit, oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai mal à mon doigt. Tout le corps souffre quand un seul membre souffre. Et quand les membres vont bien, mais le corps se réjouit aussi. Il en est de même dans l'église. Quand un souffre, dit, nous devons apprendre aussi à souffrir parce que c'est une partie du corps qui souffre. Je dois être concerné par les émotions que vivent aussi mes frères et sœurs. Souffrir avec eux quand ils souffrent. Pleurer avec eux quand ils pleurent. Me réjouir avec eux quand ils se réjouissent. Parfois, on a tendance à jalouser quand quelqu'un se réjouit. Non, il faut se réjouir avec. D'accord? Il fait partie du même corps et c'est ainsi que Dieu veut que les choses soient. Il dit que si un membre souffre, eh bien, tous les membres souffrent avec lui. Donc, quand nous savons que nous dépendons vraiment hein, les uns les autres, nous prenons beaucoup plus soin les uns des autres. Et quand nous savons que nous dépendons les uns des autres, nous sommes plus promptes à être solidaires dans la joie, dans les peines, les uns avec aussi les autres. Dieu a disposé le corps de manière à ce que cela puisse se réaliser. Donc je résume en disant ceci. L'unité dans laquelle l'Église locale doit vivre vient de l'unité dans laquelle Christ, par son esprit, a placé chaque croyant. Nous avons été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps. Et cette unité, bien sûr, se vit dans la diversité des personnes, la diversité des dons et des membres que Dieu donne. Et il faut accepter cette diversité. Il ne faut pas être envieux, il faut accepter cette diversité. Cette diversité implique qu'on ait cette solidarité les uns avec les autres, qu'on le prenne soin les uns envers les autres. Cela est d'une grande importance pour chaque membre de l'Église. Et puis cette unité aussi nécessite, comment j'avais dit ça troisièmement, que l'on accepte cette dépendance que l'on a les uns avec aussi les autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un « je n'ai pas besoin de toi ». Si nous considérons ces choses en Christ, nous pouvons vraiment marcher de progrès en progrès et conserver vraiment cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Je voudrais juste dire deux ou trois mots de conclusion. Parce que la spiritualité, chers frères et sœurs, n'est pas fonction des dons et des ministères qu'on exerce, mais en fait de la relation que l'on entretient avec les autres membres du corps de Christ. Ça, c'est important. L'apôtre Paul, ici, parle à ces Corinthiens qui avaient des dons. Il dit, au chapitre 1, il dit « ne vous manque aucun don ». Et qui regardaient sur leurs dons pour savoir qu'ils sont... s'ils sont spirituels ou pas. Moi, je suis OK. Et Paul dit, vous devez apprendre à avoir soin les uns des autres. Accepter ce que vous êtes, mais aussi savoir que vous avez besoin les uns des autres. Vivre vraiment cette relation les uns avec les autres. Donc là,
la spiritualité n'est pas fonction des dons ou des ministères qu'on exerce. Moi, je sers le Seigneur, je fais ça, et après, c'est... Non ! C'est quelle relation j'ai avec les frères et sœurs ? Est-ce que je les aime ? Est-ce que je sais ce qui les concerne ? Est-ce que je prie pour eux ? Est-ce que je les rencontre ? Est-ce que je les porte dans mon cœur ? Et ça, c'est la marque de l'action de l'esprit dans le cœur. C'est pas le fait de faire des choses, de prêcher, de chanter, de distribuer des traités. C'est pas ça qui montre la spiritualité. C'est le fait d'être rempli dans le cœur d'un amour sincère pour les autres, de les accepter quels qu'ils sont, d'où qu'ils viennent, de les porter dans nos cœurs, de prier pour eux, d'avoir cette relation avec les autres, d'avoir soin, l'apôtre Paul dit ici dans le texte que nous avons lu, les uns des autres. Ça, c'est la vraie marque. Et puis, puisque l'Église est le corps, eh bien, tout ce est un corps, tout ce qu'un membre fait affecte l'Église. Tout ce que vous faites, si vous êtes un enfant de Dieu, faisant partie du corps de Christ local, affecte l'Église. Si vous n'êtes pas là, ça affecte l'Église. Si vous êtes en retard au culte, ça affecte l'Église. Si vous êtes absent en réunion de prière alors que vous pouvez être là, cela affecte l'Église. Tout ce que l'on fait affecte le corps. Ce que ma main fait affecte tout mon corps. Ce que mes yeux regardent affecte tout mon corps. Même ma pensée peut être dérangée. D'accord. Donc ce que membre fait en tant que membre, individuellement, cela affecte aussi le corps. Nous devons être conscients de cela. Et donc, je reviens quand je parlais du fait d'être en retard. Eh bien, on ne peut pas démarrer ensemble. Le corps tout entier ne peut pas louer Dieu. Il y a une partie du corps qui loue Dieu et puis l'autre partie qui n'est pas là. C'est comme si j'avais laissé ma main dans le lit et puis après le reste est ici. Vous voyez, je ne peux pas faire de la sorte. Et donc, j'ai besoin d'être avec ce corps, hein, de partager ce que ce corps partage. Et ça, c'est important. Et la vie de l'Église, je termine avec ça, n'est pas seulement le dimanche. C'est-à-dire, je veux dire, on peut avoir soin les uns des autres en dehors aussi du dimanche, s'appeler en semaine, prier les uns pour les autres en semaine, se rencontrer aussi en semaine, avoir des échanges aussi en semaine. Ce n'est pas juste le fait d'être là qui est une vie d'Église. D'accord ? Même quand l'Église n'est pas réunie ici, elle est Église locale éparpillée. Et quand elle est éparpillée, les membres peuvent avoir des relations aussi, bien sûr, les uns avec les autres. Donc il faut, je crois que cette image du corps doit rester présente dans notre esprit, nous aider à vivre et à comprendre vraiment cette unité, hein, que Dieu veut pour l'Église, et surtout cette interdépendance que l'on a les uns envers les autres. Et là, le souci de la relation que l'on doit entretenir, bien sûr, les uns avec les autres. Prions, chers frères et sœurs. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons de nous aider à comprendre encore davantage ces choses et à chercher à vivre véritablement comme un corps. Détourne-nous de notre esprit d'égoïsme ou parfois d'individualiste. Et donne-nous d'accepter que tu nous as placés de manière intentionnelle, de manière souveraine, parce que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est ainsi que tu veux que nous te rendions témoignage. Seigneur, je te prie d'agir dans nos cœurs pour que des pensées justes concernant ton Église puissent nous amener à des attitudes juste dans notre vie de tous les jours. Guide-nous pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen.